Pour la petite histoire, vous avez une mystique qui a existé, qui voyait son ange gardien. Et comme elle n'a pas été ni béatifiée ni canonisée, je crois qu'on m'a jamais vraiment donné son nom. Mais peut-être que certains ont lu sa vie et pourraient reconnaître. Donc, elle a un ami prêtre qui vient le visiter avec un de ses amis prêtres. Et cette dame, sainte femme, les voit entrer dans sa demeure et elle dit « Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, monseigneur. » Et l'autre lui dit « Pardon. » Et il avait été contacté par le nonce quelque temps avant, et il était évêque nommé, mais personne, enfin elle ne le savait vraiment pas. Il dit, mais comment savez-vous que je suis évêque? Et elle lui dit, mais votre ange, l'ange de votre diocèse, est déjà avec vous. Donc, vous voyez, comme elle voyait les anges. Donc elle voyait l'ange de son ami. Saint François de Sales dit qu'on a deux anges, l'ange gardien de tout être humain, et à notre ordination sacerdotale, on a un ange de plus. Mais c'est disputé, parce que je vois pas pourquoi mon pauvre ange gardien depuis ma conception serait vexé d'être aidé par un plus costaud. Enfin bon. Par contre, lorsqu'on est évêque, on a l'ange gardien du diocèse, qui lui s'occupe de tout le diocèse et qui va aider l'évêque, mais en tant qu'évêque, par rapport à ce diocèse. Alors, tout ça, c'est de la piété, des bondieuseries du 19e. Non, c'est beaucoup plus ancien dans la théologie de dire qu'il y a un ange gardien par société, par communauté. Et bien là, en l'occurrence, l'ange dit « Je suis l'ange du Portugal ». Comme Saint-Michel est l'ange de la nation juive et de la France, s'il vous plaît. Surtout, nous, l'ange gardien de la France, c'est Saint-Michel en personne. Surtout, accepter et supporter toutes les épreuves. Ainsi, dès maintenant, les petits bergers connaissent deux sortes de sacrifices. Offrir à Dieu nos actions en compensation des péchés qui l'offensent et accepter les épreuves de la vie pour obtenir la conversion des pécheurs. Après l'apparition, François demanda à sa cousine « Que t'a dit l'ange ?» Étonné, Lucie lui demanda s'il avait entendu le dialogue. Mais le petit garçon lui dit « Non, j'ai vu qu'il te parlait et j'ai entendu ce que tu lui as répondu, mais je ne sais pas ce qu'il a dit. » Bon, il a 8 ans, hein. À l'automne 1916, les pastoureaux faisaient paître leurs troupeaux. Après le repas, ils se mirent à prier, là où précisément l'ange leur était apparu la première fois. Alors qu'ils récitaient la prière apprise par l'ange, « Mon Dieu, je crois, j'adore », le visage contre terre, une lumière apparut au-dessus d'eux. Se relevant, les enfants virent de nouveau l'ange, qui cette fois tenait dans sa main gauche un calice. Et là, faites attention, et c'est pas la première fois. Et âme sensible s'abstenir. Si vous voulez pas entendre des choses terribles ce soir, la porte est ouverte. Et vous pouvez aller dire le chapelet dehors en gardant votre innocence. Sur lequel était suspendue une hostie de laquelle tombaient quelques gouttes de sang dans le calice. Elle tenait toute seule, hein, l'hostie, au-dessus du calice. Laissant le calice et l'hostie suspendue en l'air, l'ange se prosterna près des enfants et répéta trois fois cette prière. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur, de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que, plutôt que d'être austère, Fatima, c'est quelque chose de très miséricordieux. Dieu ne s'intéresse qu'à une seule chose à Fatima, c'est de sauver les personnes méchantes. Parce que les pauvres pécheurs, si vous voulez, Dieu ne va pas se déranger pour des pécheurs qui finissent par se racheter dans leur vie parce qu'ils ne sont pas malicieux et qui font un long purgatoire. Et il vient vraiment pour les pécheurs et pour ceux qui meurent dans une indifférence totale. Et il y en a. Et je pense qu'en ce moment, il y en a plus qu'en 1917. Puis se relevant, il prit de nouveau le calice et l'hostie dans ses mains. Donna la Sainte Communion à Lucie. Or, à l'époque, le décret de Saint Pie X n'était pas encore tout à fait répandu. Elle n'avait pas fait sa première communion encore. Et donna le sang du calice à Jacinthe et à François. Eux, ils ont communié sous l'espèce du sang. Impressionnant, hein? Je ne sais pas si vous connaissiez ce détail. En disant, prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. 8-10 ans. Hein. Enfin non, à l'époque c'est 7 ans pour François. Là il a fait sa première communion. C'est Dieu, hein, donc là, l'évêque du lieu, il a... Il se prosterna une dernière fois avec les enfants et répéta à nouveau 3 fois la prière de la Sainte Trinité. Les 3 petits voyants gardèrent le plus absolu silence sur les apparitions de l'ange. À votre avis, franchement, c'est impressionnant. Pourquoi donc ? Sœur Lucie le dit plus tard. À cause de l'expérience pénible après l'apparition de 1915, la sienne, elle a dû dire à ses 2 cousins, « Non, non. » Elle confia également alors la conviction qu'elle avait réellement reçu ce jour-là le corps, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, comme lorsqu'elle communiait à l'Église par le moyen d'une hostie. Ah, elle avait déjà fait sa première communion, grâce à Saint Pie X sans doute. Cette communion mystique fut certainement pour eux une grâce singulière. La vie des saints offre divers exemples de ces communions miraculeuses sans l'intervention du prêtre. Par exemple, celle de la bienheureuse Imelda. Elle avait 12 ans, hein, on communiait à 12 ans. Hein. Elle avait demandé aux religieuses, elle était dans un couvent, elle avait été confiée à des dominicaines, je crois. Elle était là, elle voulait communier, elle dit non, pas encore, pas encore, pas encore, pas encore. Et donc là, à une messe, elle était là, et elle a tellement demandé à notre Seigneur ce qu'elle puisse communier, vous avez une hostie qui est sortie du ciboire du prêtre, qui a traversé l'assemblée, et s'est arrêtée devant la fille. Et qui ne descendait pas, hein. Le prêtre, qui n'était pas un progressiste, et qui s'est dit, mais ça, alors là, il y a un truc. Non, hein, il a cru que c'était surnaturel. Ça semblait bien surnaturel. Hein. Il est arrivé, il a pris l'hostie en l'air et il a communié Imelda. La messe s'est terminée, parce que vous savez, à l'époque, je ne sais plus, c'est 13e siècle, Imelda. Hein, on est en plein temps des légendes et tout ça, n'est-ce pas ? Eh bien, la messe terminée, elle fait son action de grâce, voilà, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, au bout de 30 minutes, on commence à dire « Imelda, Imelda !» Et bien, elle était morte. Extase. Et là, extase, grande extase, l'âme est sortie du corps et elle n'est pas revenue. La bienheureuse Imelda. Saint Stanislas Kostka, qui devait avoir des extases aussi, Saint Gérard Majella. Cependant, c'était la première fois que la Sainte Communion était offerte à des âmes privilégiées sous la forme du précieux sang. Ah. Dans leur conversation intime, les pastoureaux se demandaient pourquoi Lucie avait reçu l'hostie alors que François et Jacinthe le contenaient du calice. Et des discussions d'enfants, voire de théologiens. Alors, comment ça se fait? Alors, non, oui, nous, mais c'est parce que peut-être ces deux allaient mourir rapidement. Mais bon. Lucie expliqua à ses cousins que les deux communions étaient équivalentes, mais lorsque Notre-Dame, à sa seconde visite, leur eut annoncé leur avenir, il comprit que la différence dans la manière de leur communion symbolisait la différence de leur destinée. Lucie allait vivre, et puis Jacinthe et François allaient aller au ciel. Vu ce qu'elle a vécu ensuite, Lucie devait rester longtemps sur cette terre, avait besoin du pain de vie, eux, appelés à la quitter bientôt, devaient se préoccuper particulièrement d'offrir le sacrifice de leur vie. Récapitulatif, 1915, l'enfant apparaît trois fois sans donner de message. Printemps 1916, première apparition de l'ange et la prière « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime ». Été 1916, deuxième apparition où l'ange ne leur dit de prier mais ne leur apprend pas de prière, mais d'offrir leurs actions et de supporter les souffrances. Automne, c'est peu dire que, vous savez, les enfants à cette époque-là n'étaient pas difficiles quand ils mangeaient. Non seulement parce qu'ils se prenaient une tarte les deux, trois, quatre premières fois où ils essayaient de ne pas manger ce qu'ils avaient dans leur assiette, mais voilà. Ensuite, on pouvait aussi leur expliquer que c'était pas seulement une vertu stoïcienne de manger tout ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi une manière de générosité spirituelle. Et en automne 1916, vous avez la communion impressionnante des enfants. Donc pour ceux qui iront à Fatima, nous irons sur le lieu de la communion des enfants. Dimanche 13 mai 2017, non, 1917. Plusieurs mois après la dernière apparition de l'ange, et très précisément en ce dimanche 13 mai 1917, qui précédait la fête du jeudi de l'Ascension, les trois enfants, avant de sortir avec leurs brebis, s'étaient rendus à l'église paroissiale pour entendre la messe, celle qu'on appelle dans le pays la messe des âmes parce qu'on y prie spécialement pour les défunts. Dans la famille des petits pastoureaux, la messe du dimanche était un devoir sacré. La messe finie, les enfants revinrent à la maison, prirent le sac qui contenait leur repas et allèrent avec les brebis jusqu'à la mare qui se trouve en dehors du hameau vers l'endroit appelé Gouveia. Lucie, comme elle le faisait presque toujours, choisit elle-même l'endroit où il devait faire pâturer les brebis ce jour-là, un terrain appartenant à ses parents, à la Cova da Iria, qui signifie « la tombe de Iria ». Ce n'est pas la côte, c'est la tombe, la Cova. En souvenir de Sainte Iria, Sainte Irène, qui a préféré mourir que de perdre sa pureté à cet endroit-là. Et tentative de viol, et elle est morte, en se débattant. C'est là que se rendirent allègrement les trois enfants. Ils traversèrent lentement la lande pour permettre aux brebis de brouter le long du chemin. De cette manière, et parce qu'ainsi le terrain était pierreux, hérissé ça et là de genêts épineux, la route fut assez longue et ils n'arrivèrent à l'endroit désigné que peu avant midi. Ils ouvrirent alors leurs sacs de provisions, ils se signèrent, comme ils en avaient l'habitude, récitèrent un autre père et se mirent à manger, en prenant soin cependant de garder quelque chose pour le soir avant de reprendre le chemin de la maison. Ils dirent ensuite les grâces et récitèrent le chapelet, puis, en haut de la pente de la Cova da Iria, se mirent à construire, pour s'amuser, un petit mur autour d'un buisson, quand soudain, ils virent comme un éclair. Eh bien, à chaque fois, il y a un éclair. Ils se regardent tout surpris. Ils savent qu'il n'y avait pas d'éclair sans orage. Ils lèvent les yeux vers le ciel, mais, nés du côté du levant, nés du côté de Santa Catarina, il n'y a le moindre indice de pluie. Pas le plus léger nuage ne vient obscurcir l'azur du ciel. Pas le plus léger souffle de vent. Le soleil est splendide, l'atmosphère chaude et calme. Cependant, ils décidèrent de rentrer à la maison. Les petits descendirent donc la pente, poussant les brebis en direction de la route. Arrivés à la moitié de la pente, environ à la hauteur d'un grand chêne vert qui se trouvait là, ils virent un autre éclair. Puis, une dame toute vêtue de blanc et qui répandait la lumière autour d'elle. Au-dessus du chêne. Surpris par cette apparition, les enfants s'arrêtèrent à environ 1,50 m de distance d'elle. et ils ne sont pas partis en courant. Alors la dame dit, n'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. D'où venez-vous ? demanda Lucie. Du tac au tac. Je suis du ciel. C'est des lettres de noblesse, hein, quand même. Je suis du ciel. Répondit Notre-Dame. Et que voulez-vous de moi ? Je suis venu vous demander de venir ici pendant 6 mois de suite, le 13, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Alors, je reviendrai encore ici une 7e fois. C'est amusant parce qu'il y a toujours un peu cette idée, la Vierge Marie au début ne dit pas qui elle est. De nos jours, il y a eu suffisamment d'apparitions pour que la prochaine fois que vous verrez une dame blanche, toute belle et souriante, vous dites c'est la Vierge Marie. Mais voyez-vous, c'est, voilà, qui je suis. C'est Bernadette, tout le monde se doute que c'est la Vierge Marie, mais elle ne le dit pas. Il va falloir attendre le 25 mars pour que la Vierge Marie dise « Je suis l'Immaculée Conception ». Et là, Lucie, là on voit hein, les petits-enfants catholiques, hein, imprégnés de catéchisme. « Et moi, est-ce que j'irai au ciel aussi ?» C'est incroyable, hein. Oui, tu iras, canonisé de son vivant. Et Jacinthe, aussi. Et François, aussi. Mais, parce qu'il y a un mais, il devra réciter beaucoup de chapelets. À bon entendeur, salut. Lucie demanda au sujet de deux jeunes filles mortes depuis peu. Maria, 16 ans, fille de José des Neves, et Amélia, 19 ans, qui allaient chez elle apprendre à tisser. Deux jeunes femmes qui étaient mortes dans le village. Vous voyez, elle voit la Vierge Marie. Hein, n'oublions pas qu'elle a vu 6 fois un ange hein, depuis 1915, donc... On la lui fait pas. Hein, Est-ce que Maria est déjà au ciel ? Et la Vierge Marie ? Oui, elle y est. Vous vous rendez compte ? Pour la famille ? La famille de cette Maria Neves, ils savent que leur fille est au ciel. Tac. Et Amélia ? Oui. Et Amélia ? Amélia avait eu une fin tragique. Elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Alors, les théologiens ont tout décortiqué, hein, je peux vous assurer, sur Fatima. Alors ils se sont dit, mais alors, est-ce que c'est la peine de prier pour elle ? Oui. Vous voyez, sœur Sainte Faustine, mais là je devrais vous répondre de manière théologique. De manière théologique, plus vous priez pour une âme du purgatoire, plus ses regrets sont moins profonds et vous réparez pour elle. Donc elle souffre moins de ses regrets. Parce que la première souffrance d'une âme, c'est le temps perdu de ne pas avoir assez aimé et assez pardonné. Et c'est très fort pour une âme qui est morte en aimant Dieu et son prochain, mais qui n'avait pas tout donné. L'état de purgatoire, c'est un dogme, hein. C'est le fait de voir, de savoir par le jugement avec le Christ et par la connaissance de son âme entière, en une seule pensée, tout le temps qu'on a perdu pour aimer et pour pardonner. Donc c'est ce qui est lourd. Voyez. Et quand vous priez avec une âme du purgatoire, vous la consolez et vous réparez aussi ses fautes non regretté de son vivant. Donc, c'est utile de prier aussi pour Amélia. Mais elle n'aura la vision béatifique qu'à la fin du monde.
Est-ce que c'est vrai que quand on dit le chapelet de Sainte-Gertrude, ça libère 1000 âmes du purgatoire ?
Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer ? Message de l'ange, hein ? En acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé, et de supplication pour la conversion des pécheurs. Donc l'ange du Portugal annonçait bien sa reine. Oui, nous voulons. Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Elle dit ça à des enfants. Pendant qu'elle prononçait ces paroles, Notre-Dame ouvrit les mains, et comme par un reflet qui émanait d'elle, sans S, une lumière intense en dégagea. Lucie dit plus tard que cette lumière intense pénétra notre cœur jusqu'au plus profond de notre âme. Elle nous faisait nous voir nous-mêmes en Dieu, qui était la lumière, plus clairement que nous nous voyons dans le meilleur des miroirs. Les enfants se mirent à genoux en récitant intérieurement cette prière. Ô très sainte Trinité, je vous adore, mon Dieu, je vous aime dans le très saint sacrement. Avant de partir, Notre-Dame ajouta « Récitez le chapelet tous les jours, afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. » Quand arrivera la fin de la guerre ? Je ne peux le dire encore, tant que je n'ai pas dit aussi ce que je veux. » Après ces paroles, elle s'éleva doucement en direction du levant, jusqu'à disparaître dans le ciel. La lumière qui l'environnait semblait lui ouvrir un chemin. Cette première apparition dura environ 10 minutes, et comme les apparitions de l'ange, François vit la très sainte Vierge, mais n'entendit pas ses paroles. Jacinthe, elle, voyait et entendait tout, mais n'osa pas parler à Notre-Dame. Seule Lucie eut le privilège de dialoguer avec elle. Jacinthe, oubliant sa promesse de ne rien dire à personne, en parla aussitôt à ses parents. Ces derniers interrogèrent le petit François, qui confirma tout ce qu'avait raconté sa sœur. Cette révélation arriva aux oreilles de Maria, sœur de Lucie. Questionnée, la petite voyante dut tout raconter pour ne pas mentir, et la nouvelle se sut dans tout le bourg. Ses parents ne croiront pas à ce qui se raconte, et Lucie se fera très sérieusement gronder, ce qui explique que plus tard, Jacinthe ne dira plus rien sur ce qu'elle verra. C'était la première apparition. Pour l'ange, ils n'avaient rien dit. Mais là, pour la Vierge Marie, Jacinthe, elle n'a pas pu s'en empêcher. L'information vint jusqu'aux oreilles du curé prieur de Fatima, Don Manuel Marquez Ferreira, qui se montra assez perplexe et interrogea maladroitement les pastoureaux. Les petits-enfants, impressionnés par l'attitude et le ton sévère du curé, ne gagnèrent pas sa confiance. Jacinthe observa même un mutisme total. Offusqué, l'abbé durcit sa position et transmit le compte-rendu de l'interrogatoire au cardinal Bello du diocèse de Fatima, qui suivit sa conclusion « Il faut se tenir résolument à l'écart de cela ». Dès lors, Don Ferreira se conforme à cette directive en se montrant très hostile aux événements de la Cova da Iria. Mercredi 13 juin, le cœur immaculé de Marie. Les enfants firent donc connaître les dates des futures apparitions de Notre-Dame, tous les 13 du mois. La mère de Lucie préféra ne pas y aller à cause du remue-ménage que faisait cette affaire suite aux révélations des enfants. Lucie, François et Jacinthe, après la messe en l'église de Fatima, se rendirent jusqu'à la Cova da Iria. Vers 11 heures, lorsqu'ils arrivèrent sur le lieu des apparitions, il y avait déjà plusieurs dizaines de personnes, venues pour la plupart des hameaux voisins. De la paroisse, il n'y avait guère que Maria Carrera. Cette mère de famille, la fidèle de la première heure, dès qu'elle aperçut Lucie, Maria Carrera s'empressa de lui demander « Ô petite, quel est le chêne vert où Notre-Dame est apparue ?»« Voyez, c'est ici qu'elle se trouvait, » répondit Lucie, en mettant la main sur la cime de l'arbuste. C'était un petit chêne vert, d'un mètre environ de hauteur, dans la force de la croissance. Les branches étaient bien droites, vigoureuses et d'un bel aspect. Et puis, sans excitation, sans inquiétude ni contention d'esprit, on attendit l'heure de l'apparition. « Pour moi, » racontait Maria Carrera, Comme j'étais malade et me sentais très faible, il devait être près de midi au soleil, je demandai à Lucie, « Notre-Dame va-t-elle tarder longtemps ?»« Non, madame, elle ne tardera pas. » Les personnes réunies récitèrent le chapelet, quand un éclair s'approcha d'eux. Notre-Dame, sur le chêne vert, apparut alors. Et là, Lucie pose une question plus fine. « Que veut votre grâce ?»« Je veux que vous veniez le 13 du mois prochain, que vous disiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire. » Ah, c'est important. Parce que c'était pas certain que des pastoraux apprennent à lire. Hein. Mais là, elle dit, non, vous allez apprendre à lire. Ensuite, je vous dirai ce que je veux. La Sainte Vierge demande à Lucie d'apprendre à lire dans l'intérêt du message spirituel qu'elle aurait à transmettre. Commentaire. Lucie demanda la guérison d'un malade. Ce en quoi Notre-Dame répondit. S'il se convertit, il sera guéri durant l'année. Oui, cette réponse fait un peu peur, si vous voulez. Ça veut dire que sa maladie était liée à son péché. Alors, mais c'est pas tout à fait faux. Il y a des personnes, vous savez, qui... Notre Seigneur, à un moment donné, guérit un aveugle. On lui dit, mais il a péché ou ses parents ont péché? Ni l'un ni l'autre. Donc c'est une épreuve de la vie humaine. Mais à un autre moment, vous avez celui qui a été pendant 38 ans paralytique, et le Seigneur le guérit, le félicite pour avoir cru, mais lui dit, voilà, hein, et ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive pas pire. Là, il a dû bien réfléchir, hein, les mois qui ont suivi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait 38 ans avant, mais il avait dû faire quelque chose de vraiment pas bien, parce que 38 ans de peine, c'est pas mal. Et là, Jésus lui dit, surtout ne pêche pas à nouveau. Hein. Pire que 38 ans paralysé, je ne sais pas ce que ça veut, j'imagine pas. Et donc, ça va dans ce sens. Donc, si vous voulez, c'est la réalité. Il y a des personnes qui sont malades parce qu'elles doivent porter la souffrance pour les péchés du monde, comme Jésus innocent, et les personnes qui sont malades à cause de leurs péchés. Et parce qu'on n'enseigne plus ces deux vérités, eh ben, on préfère se taire. Ce qu'on appelle les chiens muets. Hein? Voilà. Je voudrais vous demander de vous Je voudrais vous demander de nous emmener au ciel. Oui. Tadam. Jacinthe et François, je les emmènerai bientôt. Mais toi, tu resteras ici pendant un certain temps. Jésus veut se servir de toi afin de me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À qui embrassera cette dévotion, je promets le salut. Voilà. Hein. Donc vous êtes venus ce soir, je vous annonce que si vous aimez beaucoup le cœur doux et, sensible de la Vierge Marie, vous sauverez votre âme. C'est clair, c'est net, c'est marqué. Hein, bon. Ces âmes sont chéries de Dieu comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. Dis donc, hein, c'est des belles expressions. Mais la petite Lucie, elle a entendu le début de la phrase. Hein. Je vais rester toute seule ici? Non, ma fille. Tu souffres beaucoup? Ne te décourage pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Waouh, quand vous avez la Vierge Marie qui vous dit ça, c'est sûr que... Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. De toute façon, elle lui promet qu'elle se sauvera. Donc imaginez un peu, un tel décret divin transmis par la Vierge Marie, et là, Lucie, elle fait n'importe quoi. Et là, elle dit, puisque de toute façon je vais me sauver, waouh! Eh bien non, elle est rentrée en religion. Vous vous rendez compte? Alors qu'elle avait la promesse d'être sauvée, elle n'en a même pas profité, franchement. Dans la lumière même de Dieu, les enfants purent voir l'expression symbolique de la diversité de leur vocation. Après la vision, François s'étonnait. Tu te trouvais avec Notre-Dame. dans la lumière qui descendait vers la terre, et Jacinthe avec moi dans celle qui montait vers le ciel. » Parce qu'il voyait tout ça, hein, lui, hein, le petit François. Il voyait une lumière qui était portée vers le ciel, et Lucie était dedans. Et il y a une lumière qui prenait les enfants et qui repartait vers le ciel, avec une sorte de flux. Et ben lui, il va comprendre. Lucie le lui expliqua. La prophétie qu'elle formula sur son propre compte est à signaler. Elle s'est réalisée à la lettre. « C'est que, répondis-je, toi et Jacinthe, vous irez bientôt au ciel, et moi je resterai avec le cœur immaculé quelque temps encore sur la terre. Combien d'années resteras-tu ici ? » ?»« Je ne sais pas. Beaucoup d'années ?» Hein, 2005. Hein. « C'est Notre-Dame qui te l'a dit ? » ?»« Oui, c'est elle. Et je l'ai vue dans cette lumière qu'elle nous mettait dans la poitrine. » Jacinthe confirma ce que je disais en déclarant « Oui, c'est bien ainsi. Moi aussi, je l'ai vu ainsi. » Puis la Vierge ouvrit les mains, faisant apparaître le reflet d'une lumière immense. En elle, les enfants se virent comme submergés en Dieu. Jacinthe et François paraissaient être dans la partie de cette lumière qui s'élevait vers le ciel, et Lucie dans celle qui se répandait sur la terre. Devant la paume de la main droite de Notre-Dame se trouvait un cœur entouré d'épines qui semblait s'y enfoncer. C'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité, qui demandait réparation. La Vierge repartit. Les branches du chêne vert qui s'étaient inclinées lorsque Notre-Dame apparut se relevèrent et se tournent vers l'est, se relèvent et se tournent vers l'est, comme si elles étaient attirées par un vent fort. Seuls les trois enfants ont vu et entendu Notre-Dame et ce reflet lumineux. Quelques autres personnes qui étaient là, à la Cova d'Aeria, disaient avoir entendu le son des réponses de la Vierge. Comme il y en avait un certain nombre et pas une seule, c'est possible. Mais aucun des assistants ne virent ni le reflet lumineux, ni Notre-Dame elle-même. Ceux qui avaient été venus pour voir avaient tout de même des preuves de l'authenticité des dires des enfants. Au moment où les enfants virent Notre-Dame, tout le monde put voir les petites branches du sommet de l'arbre, qui auparavant étaient droites, s'incliner, comme si elles avaient été réellement foulées par quelqu'un. Et pendant toute l'apparition, ces branches ployaient en rond de tous les côtés, comme si le poids de Notre-Dame avait réellement porté sur elles. De même, à la fin de l'apparition, qui dura une dizaine de minutes, lorsque Notre-Dame partait, tous les rameaux se ramassèrent et s'infléchirent en direction de l'est. Tous purent également observer qu'il y eut, au moment du départ de Notre-Dame, comme un souffle quand on l'entend monter au loin, puis un petit nuage qui s'élevait de l'arbre vers l'Orient, jusqu'à disparaître complètement. Cette seconde visite, disait sœur Lucie, fut pour eux l'occasion d'une illumination de leur esprit qui leur fit comprendre combien Dieu est grand, combien il est nécessaire de réparer ses droits violés, combien il nous aime et veut être aimé, quelle est la valeur du sacrifice et combien le Seigneur en tient compte pour convertir les pécheurs. 13 juillet, troisième apparition. La vision de l'enfer annonce de la demande de la consécration de la Russie au cœur immaculé et de la communion réparatrice des premiers samedis du mois.